Alors, bonjour à tous. Alors, je suis un peu surpris d'être devant vous ce matin. Je n'ai pas calculé, mais la dernière fois, c'était à peu près il y a 20 ans, je pense, que j'apportais un message ici. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts. L'église a changé, mais je vois encore beaucoup de gens que j'aime. C'est l'église de mes parents, de mon frère, de mon cousin, de mon filleul, de beaucoup d'amis. Alors merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de la séquence émotion. Alors ce matin, j'aimerais un petit peu m'appuyer sur ce que vous avez vécu hier, que j'ai raté. Alors, voilà, j'aimerais vous parler un petit peu de ce sujet, ce titre un petit peu étonnant. En rapport à ce concert que vous avez fait aussi en pensant à ces réfugiés du Moyen-Orient, Dieu en Syrie, Dieu en Irak. Alors pourquoi ce titre étonnant ? Parce que nous sommes dans une actualité que vous connaissez, qui est une actualité bouillante, inquiétante, alarmante. L'apparition de ce groupe islamiste, terroriste, barbare est sur nos écrans. Et cette terreur, elle est un petit peu au-dedans de nous parce que nous sommes témoins de ce qui se passe dans le monde, dans cette partie du monde. Et je pense que cette situation, elle nous interpelle pour trois grandes raisons. D'abord parce que nous, Français, nous sommes visés par ces barbares qui ont demandé et qui ont appelé au meurtre de Français. Deuxièmement, leurs méthodes d'exécution sont terribles, nous heurtent, hein, égorger des gens, décapiter, etc. Même sans voir les images, ça nous touche. Et puis la troisième, si on est très honnête, c'est parce que la France est une terre d'immigration musulmane et que ces gens-là, ailleurs, cherchent à susciter des personnes qui fassent la même chose chez nous, des terroristes, des loups solitaires, comme ils disent, des gens qui partent faire le djihad. Et ça marche pour certains. Et si on regarde même en détail, ce ne sont pas que des gens d'origine maghrébine qui partent, mais aussi des jeunes Français de familles tout à fait athées, par exemple, en tout cas sans lien avec le Maghreb. La situation se dégrade dans le monde et elle se dégrade pour nos frères chrétiens aussi dans ces pays, l'Irak et la Syrie. Et c'est quelque chose qui nous interpelle forcément. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, le dit, il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, que votre cœur ne se trouble pas. » C'est assez rassurant quand Jésus dit ça, mais si on lit la suite du texte, il annonce des persécutions, il annonce des difficultés, mais il annonce surtout sa paix, sa délivrance et son retour. Alors désolé de casser un petit peu l'ambiance de cet avant de Noël, mais je vais vous prouver que non finalement. Ce n'est pas d'inquiétude que je veux vous parler ce matin. Ça m'a interpellé, ces gens qui, sur des vidéos YouTube, sur les journaux, tuent au nom de Dieu, avec ces bannières, hein, noires et blanches, au nom d'Allah, au nom de Dieu, on égorge et on décapite. Et je me suis dit, mais qui est mon Dieu, moi ? Qui est le Dieu de la Bible ? Le Dieu qui a parlé en Irak et en Syrie, dans ces pays de la Bible. Qui est-il par rapport à ce Dieu que ces barbares prétendent connaître et veulent répandre ? Alors je vous propose un petit voyage rapide. Dans ces deux pays, qui sont des pays martyrs aujourd'hui, des pays dans une situation terrible, l'Irak et la Syrie, qui sont des pays de la Bible, pour voir ce que Dieu a dit dans le passé dans ces pays. Alors première étape, l'Irak. Alors, voici une image de Mossoul. Mossoul, c'est dans le nord de l'Irak. C'est tout près du site de l'ancienne ville de Ninive. Et à Mossoul, les islamistes de Daesh, donc l'État islamique, ont détruit il y a 2 mois environ un lieu saint de l'islam, un tombeau, un mausolée, qui a été dynamité, qui est le mausolée de Younes. Ah bon, Younes, on ne connaît pas trop, mais en fait vous le connaissez, puisque Younes est un des prophètes de notre Bible à nous. Alors, c'est facile, c'est... Non ? Jonas, Younes et Jonas, c'est le prophète Jonas. Et ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé qu'on puisse dynamiter le prophète le tombeau d'un de nos prophètes. Alors le tombeau n'était plus là, mais les bases de ce bâtiment qui a été détruit dataient bien du 8e siècle, de l'époque de Jonas. Alors ils l'ont détruit parce qu'ils veulent lutter contre la superstition, il ne faut adorer qu'Allah, etc. C'est de la bêtise, bon d'accord, c'est moins grave que tuer des gens. Mais malgré tout, ça m'a donné envie de retourner fouiller un peu chez Jonas. Alors dans Jonas, je vous lis juste quelques versets. Alors Jonas, hein, je reprends pas tout, Dieu lui dit d'aller à Ninive, la grande ville impure. C'est une ville où les habitants ne sont pas juifs, ce ne sont pas des gens qui vivent sous la loi, ce sont des païens. Et Dieu dit, voilà, tu vas prêcher la repentance à Ninive que je vais détruire. Alors Jonas, il a un petit peu du mal à y aller, il y a beaucoup de péripéties, et puis finalement il se rend à Ninive, il prêche la repentance. Et je vous lis juste deux versets. Donc c'est Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarse ? Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal. » Alors ça m'interpelle. Parce que dans cette ville où des hommes radicaux, extrémistes, religieux, veulent imposer leur foi en détruisant le tombeau de Jonas, eh bien le Dieu que l'on découvre chez Jonas, c'est un Dieu qui, pour ne pas détruire, pour ne pas que l'homme meure, regrette le mal qu'il avait prévu, repousse son jugement. C'est un Dieu qui pardonne, le Dieu de Jonas. C'est un Dieu qui est tendre avec Jonas, qui est même plein d'humour, vous connaissez, il faudrait qu'on relise la fin du livre, hein, pour lui faire comprendre sa compassion. Il fait pousser cet arbre qui donne de l'ombre, il le fait mourir pour que Jonas comprenne que lui a pitié de quelque chose de plus important, de cette grande foule d'hommes, comme il dit. Ça, c'est notre Dieu à nous. Un Dieu qui pourrait détruire Ninive et qui ne le fait pas pour que les gens ne meurent pas. Puis si on connaît l'histoire, on aurait pu dire, mais Dieu, il aurait dû détruire Ninive, parce que quelques années après, c'est Ninive qui va venir détruire le royaume d'Israël. Mais le plus important à ce moment-là, pour Dieu, c'était de montrer son pardon, sa patience, par Jonas. Alors mes amis, considérons un instant notre Dieu à nous, par rapport au Dieu que proclament ces gens-là par la destruction. Et la Bible, elle regorge d'expressions d'un Dieu qui ne s'impose pas. Et c'est aussi ça, Noël, c'est Dieu qui vient sur la pointe des pieds. Celui qui n'écrasera pas le roseau fragile, qui n'éteindra pas la petite flamme qui brûle encore. Souvenez-vous, le Dieu d'Élie, qui n'est pas dans le vent, qui n'est pas dans le tonnerre, mais qui est dans le murmure doux et léger. Ça, c'est notre Dieu à nous. Le Dieu de la veuve, de l'orphelin, du lépreux, de l'étranger, des prostituées, le Dieu des petits qui se repentent. À Mossoul et dans le nord de l'Irak, lorsque les chrétiens s'enfuient pour fuir la mort, les islamistes prennent leur maison et ils les marquent. Ils les marquent avec cette lettre. C'est un N, Noun, en arabe. Alors j'offre mon badge à celui qui trouve ce que veut dire ce N. Il marque les maisons des chrétiens d'un N. Alors Jésus, ça marche pas, n'essayez pas. Qui est-ce qui a trouvé ? Bravo. C'est le N de Nazareth. Oui, c'était pas loin de Jésus. Il marque d'un N et c'est le N des disciples du Nazaréen. De ceux qui suivent ce Jésus de Nazareth. Alors ça, je trouve ça incroyable. La persécution est là, la mort est là, mais les persécuteurs, contre leur gré, réalisent une parole de Jésus que je vous lis, Évangile de Matthieu. Jésus dit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive, c'est la ville de Mossoul, Ninive, les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement. Contre cette génération, ils la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Je trouve ça incroyable. On marque les chrétiens d'un signe distinctif qui est notre fierté. Nous sommes les descendants, les disciples du Nazaréen, et nous en sommes fiers. Soyons-en fiers. Ce n'est pas un Dieu qui détruit. C'est un Dieu, comme dit le psaume, qui est tendresse et pitié. Tendresse avec Jonas, pitié avec les Ninivites. Voilà pour ma première étape. Dieu en Irak dans le passé, Dieu en Irak aujourd'hui et Dieu dans nos vies, c'est le même. Un Dieu qui est patient avec tout le monde et avec nous. Alors, deuxième étape de notre voyage, c'est la Syrie. Alors c'est frontalier, la Syrie. Et la transition est facile parce que Jonas, quand il ne veut pas du tout aller à Ninive, hein, il est un peu froussard au début, enfin froussard, je l'aurais été aussi, il part prendre le bateau dans un port, le port de Tarse. Alors c'est facile comme transition, puisque à Tarse, 8 siècles plus tard, un autre phénomène voit le jour. Il s'appelle Saul. Et ce Saul de Tarse, c'est un extrémiste religieux. Il croit dur comme fer qu'il a raison et il est prêt à l'imposer par tous les moyens. Ce Saul de Tarse va se lancer dans une guerre sainte. C'est un juif extrémiste. Et il va tout faire pour éradiquer cette hérésie chrétienne qui vient d'apparaître. Alors j'ose la comparaison. Saul, c'est un djihadiste. Vraiment. C'est un soldat religieux qui est prêt à détruire pour sa foi. La preuve, eh bien, on l'a dans plusieurs passages du livre des Actes, et je vous relis le principal, c'est la mise à mort d'Étienne. Ces versets d'Étienne, je pense que nos frères et sœurs d'Irak, ils les vivent quotidiennement, exactement pareil. En entendant cela, les Juifs furent exaspérés dans leur cœur. C'est au chapitre 7 des Actes, pour ceux qui veulent suivre, 7 et verset 24, puis je peux vous les lire. Acte 7, verset 54, pardon. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et cria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il mourut. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Si vous suivez un petit peu Porte Ouverte ou d'autres associations, c'est ce qui se passe dans nombre de pays, en particulier des pays musulmans aujourd'hui. Les chrétiens sont accusés de blasphème et mis à mort pour cette raison toute simple. On les accuse d'avoir brûlé des Corans, d'avoir mal parlé de Dieu, d'avoir dit autre chose d'autre que « Dieu est grand ». Et ils sont mis à mort juste pour ça, comme Étienne. Alors, arrêtons-nous un petit peu pour revenir dans le passé sur la personnalité de ce Saul. Ce Saul, c'est un juif, donc, extrémiste, ultra-orthodoxe, comme on dirait aujourd'hui, et prêt à en découdre. Je vous lis un verset, et je vous demande d'être attentif aux verbes employés, les verbes d'action qui parlent de Saul. C'est le verset 3 du chapitre 8. Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ravageait, arrachait, faisait jeter en prison. Au début du chapitre 9, on a encore un éclairage sur cet homme. Chapitre 9, verset 1, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, en Syrie, afin que s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Voilà un djihadiste. Voilà un homme prêt à tout pour sa foi, qui respire le meurtre contre les chrétiens. Ça, c'est très contemporain dans certaines parties du monde. Eh bien, ce Saul, sur la route de Damas, en Syrie, il y a 2000 ans, va rencontrer l'homme qu'il persécute de toutes ses forces à travers ses disciples, Jésus. Alors, j'aimerais lire quelques passages de ce, quelques extraits de ce passage incroyable de la conversion de Saul. Je voulais les lire et il y a quelques temps, il y a un an environ, je suis tombé sur Internet sur un reportage photographie fait par deux journalistes français qui se sont infiltrés dans des combattants syriens qui ont fait un reportage photo qui a été primé. Et j'ai failli tomber de ma chaise. En voyant ce reportage, j'ai presque envie de les contacter, savoir s'ils ont fait exprès. Je vous explique. Je vous lis ce passage. Je vais essayer de suivre un mot. Et j'ai monté les photographies avec. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, ça c'est Damas aujourd'hui, hein, c'est une ruine. Une des plus belles villes du monde, en ruine. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Saul se leva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Dans la suite du passage, Dieu va susciter un homme, Ananias, pour venir prier pour Saul, lui imposer les mains. Et Ananias, donc, se rend près de Saul. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça aussi incroyable que moi. Ce sont des soldats donc qui font la guerre civile en Syrie, et ils sont en particulier aveuglés par les gaz qu'utilise le dictateur au pouvoir, qui les aveugle. Et donc parmi ces soldats, les journalistes ont suivi donc ces soldats blessés qui sont conduits dans Damas et à qui on met un collyre dans les yeux pour qu'ils recouvrent la vue. Parallèle saisissant. Notre Paul, Saint Paul, a été un de ces hommes-là, combattant de l'intolérance, prêt à écraser la tête d'innocents pour proclamer son Dieu. Et puis un jour, il rencontre Jésus, l'homme qu'il haïssait. Pour reprendre l'expression de Calvin, quand il s'est converti, un jour Dieu lui a fait tourner bride. Un tour à 180 degrés, une conversion, comme au ski. Il change de direction. Comment cela est-il possible? Un persécuteur qui devient un apôtre. À Dieu, rien n'est impossible. C'est Dieu qui fait ceci. Et malgré tout, il y a un petit détail dans un de ces textes qu'on a lu qui m'interpelle, c'est évidemment la prière d'Étienne au moment de mourir. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et Dieu va exaucer cette prière, particulièrement pour Saul, qu'il va sauver. Alors mes amis, considérons notre Dieu à nous. Par rapport au Dieu des barbares qui sévissent en Syrie. Un Dieu qui change les vies pour les rendre meilleures. De la guerre sainte à la vie sainte. Un Dieu qui rend la vue, qui fait renaître, recommencer. Alors que des gens tuent au nom de Dieu. Voilà notre héritage, à nous chrétiens. Soyons-en fiers. Notre Dieu, c'est le Dieu de Jonas, un Dieu qui est patient. C'est le Dieu de Paul, un Dieu qui vient nous chercher, qui change notre vie. Alors, je conclus en deux temps. D'abord pour vous dire que ces territoires dont on entend parler dans les actualités, c'est vrai qu'on n'est pas toujours attentif parce que c'est répétitif. Ces territoires où sévissent aujourd'hui des barbares violents, la Syrie, l'Irak, d'autres pays du Levant. J'aurais pu citer le Sinaï en Égypte, le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse. C'est un lieu aujourd'hui où les islamistes se cachent. Ce sont les territoires de la Bible. C'est notre héritage spirituel. Alors, il faut qu'on s'en souvienne un peu quand on entend les informations. Que ces lieux qui sont des lieux aujourd'hui d'effroi, ce sont des lieux qui nous parlent de notre Dieu. D'un Dieu dont nous sommes fiers. Un Dieu qui est patient. Un Dieu qui change nos vies. Et puis pour terminer, je voulais vous laisser quelques pistes de prière. Alors les pistes, c'est comme des chemins. En montagne, ça monte plus ou moins fort, ou alors c'est des pistes de ski qui sont plus ou moins difficiles à descendre. Alors la première piste, évidemment, c'est de prier pour nos frères et sœurs de ces pays, chrétiens soumis à la terreur, qui ont le choix entre laisser leur vie ou tout laisser, partir quand ils le peuvent. Beaucoup sont morts. Prions pour eux, sans relâchement. Prions pour leur délivrance. Et puis prions, c'est aussi important pour leur témoignage face aux bourreaux. Il se passe des choses incroyables dans ces pays-là. Des hommes qui, sous les coups, comme Étienne, prient pour leurs bourreaux. Et Dieu fait des miracles comme il a le fait dans le passé. Prions pour eux. Deuxième piste, prions pour nos frères humains, musulmans, dans ces pays. Otages, pris en tenaille entre un dictateur politique ou un dictateur religieux, soumis à la violence qu'ils n'ont pas demandé. Prions pour nos frères et sœurs musulmans, musulmanes en France, en Suisse, dans le pays de Gex, à Genève. Bénissons-les au nom de notre Seigneur et considérons un petit peu quelle est leur situation actuellement. Leur parole est prise en otage par des barbares, par des extrémistes. Et je crois que vraiment l'Église, les chrétiens ont un rôle à jouer là-dedans. Ne pas faire d'amalgame. Bénir au nom de notre Seigneur. Troisième piste, un petit peu plus ardue peut-être, prier pour nos autorités. On les aime plus beaucoup, nos autorités. Et pourtant, on n'aimerait pas être à leur place pour savoir quoi faire. Que faut-il faire ? en Irak, en Syrie. Que faire? Quelle que soit la couleur du président, quel choix faire? Et on voit que dans le temps passé, les décisions n'ont pas toujours été bonnes. Une partie de la situation actuelle a été causée directement par l'intervention américaine, mais surtout la gestion qui a suivi entre sunnites et chiites. Et il y a un verset des Proverbes qui est beau qui dit « Le cœur des rois est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. » Alors prions pour nos dirigeants, pour que Dieu incline leur cœur avec sagesse dans ces situations qui nous concernent directement, même si ça paraît loin. J'ai gardé la piste la plus dure pour la fin, la piste noire. Prions pour les barbares. Prions pour les égorgeurs de Tizi Ouzou en Algérie. Prions pour les décapiteurs des vidéos de Daesh, de l'État islamique. Bénissons ces hommes qui nous maudissent, nous occidentaux. C'est pas un chemin facile. Et nous n'avons pas souffert de leurs mains, de leurs actions nous-mêmes. Prions pour eux comme Étienne a prié pour Saul. Ça paraît presque incroyable de demander à Dieu qu'il transforme ces hommes en apôtres. Et prions notre Dieu qui est puissant et notre Dieu qui attend avec patience pour que le maximum accepte le pardon. Voilà, en fin de compte, après avoir prié pour tout ça, sans relâche, nous attendre, nous, à Dieu. Soyons fiers de notre Dieu. C'est la période de l'Avent. Et il y a cette parole magnifique du prophète Ésaïe, oui, à laquelle je pense, quand je pense évidemment à cette situation, à ces peuples. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est une parole pour nous dans cette période de Noël, d'obscurité, de nuit, d'hiver. C'est une parole pour eux. Car un enfant nous est né. Voilà notre Dieu. C'est le message de Noël. C'est un Dieu qui est doux. C'est un Dieu qui est patient. C'est un Dieu qui reviendra comme juge. Mais c'est un Dieu qui change nos vies. Si nous sommes conscients de ceci, nous n'aurons jamais peur. Quels que soient les échos et la fureur du monde. Alors, bonne période de l'Avent et bon Noël à tous.
Alors, j'ai omis de vous présenter Laurent. Je vais me rattraper. Laurent est un des enfants de Jean-Paul et Lydie. Laurent et Lucie, son épouse, ainsi que leur famille, ont été pendant de nombreuses années en région parisienne, côté ouest, côté Mantes-la-Jolie. Maintenant, ils habitent près de Grenoble. Au sud de Grenoble, ils sont un petit peu plus près, on les voit un petit peu plus souvent. En tout cas, un grand merci, Laurent, pour ce que tu nous as apporté ce matin, pour avoir traité ce sujet qui n'est pas facile. J'aimerais partager quelques mots à Lydia. On est content que tu sois de retour. On pense à toi, on a beaucoup pensé à toi, à vous, à la famille. J'aimerais juste te laisser un verset suite au décès de ton papa. Un verset qui m'est cher à moi. Un verset qui symbolise aussi l'espérance que nous avons dans notre Dieu, une espérance qui ne trompe pas. Il est dit dans l'Apocalypse, lorsque Jean nous parle de la nouvelle Jérusalem, il nous donne quelques mots de ce que l'on vivra dans cette nouvelle Jérusalem, et il nous dit, entre autres, « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. Ce qui existait avant a disparu. » Bon retour. On continue de penser à toi parce qu'on sait que la douleur de perdre un être cher met du temps à passer. Et on continue de prier pour toi. Je partage avec vous les annonces de la semaine. Lundi, Femme Club. J'imagine chez Emmanuel et Rebecca. Mardi, ce sont les cellules. Alors, Ajex, c'est chez nous. Collonges, Farges, Perron, le côté sud du pays de Gex, c'est chez Fred et Nancy. Voilà. Prefsin, toujours chez Emmanuel et Rebecca. Pardon. Samedi, groupe de jeunes à 20h. Dimanche. Alors, dimanche prochain, on va vivre un culte particulier. Oui.
Mercredi après-midi.
Ah oui.
Le goûter des
aînés. Mercredi après-midi, le goûter des aînés. Merci. Donc, dimanche prochain, on va vivre un culte particulier, un culte de baptême. Alors, c'est Stéphanie Parnin, qui est parmi nous ce matin, qui va se faire baptiser. Alors, Stéphanie est une nièce de Raymond, une petite fille de Freddy. Et c'est vraiment un clin d'œil que Stéphanie puisse se faire baptiser dans cette église. Je crois que sa famille, en tout cas ses grands-parents, ont beaucoup prié pour elle, comme ils ont prié pour toute leur famille. On se réjouit de cela. C'est vraiment une joie et un moment particulier que ce moment de baptême. Donc il y aura le culte de baptême. Après le culte, on va partager un repas en commun. On vous propose de partager un repas canadien. Malheureusement, Stéphanie va devoir partir, prendra pas le repas avec nous, mais ça fait rien. On va quand même prendre ce temps. Non, mais je le dis juste parce que dimanche prochain, si vous voulez discuter avec elle, n'attendez pas le repas. Faites-le tout de suite après le culte. Donc, on vous propose de partager un repas canadien. Et puis, juste un petit détail tout pratique. Après le culte, si quelques personnes, 5 ou 6 personnes, pouvaient donner un coup de main pour installer le baptistère. Après le culte, aujourd'hui donc, hein. Parce que après, ce sera plus difficile. Merci. J'aimerais juste revenir sur le concert d'hier soir. On a déjà beaucoup remercié chaque participant. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement le groupe de jeunes. C'est eux qui ont préparé la collation qui a suivi. La collation a aussi été très appréciée. Moi, j'aimerais les remercier tout particulièrement. Ils ont fait un super boulot. Et juste pour rappeler aussi qu'il y aura donc un deuxième concert le 20 décembre. Le même concert qui se reproduit à la salle Jean Monnet à Saint-Genis. Il y a encore quelques invitations au fond de la salle, il y a encore quelques affiches. Prenez-les, affichez-les, mettez-les à disposition, distribuez ces tracts. Ce qui est vraiment intéressant de par la formule concert, c'est qu'on peut élargir les invitations au niveau des personnes qu'on invite. On peut vraiment inviter beaucoup plus de monde. Et c'est un des avantages, donc profitons-en, utilisons vraiment les derniers tracts, les derniers flyers qui sont là, n'hésitons pas. Je crois que toutes les personnes qui étaient présentes hier étaient reconnaissantes et ont trouvé extraordinaire ce concert. Et il me semble que c'est un moyen très favorable et très positif de partager ce qu'on a reçu de notre Dieu par cette magnifique fête de Noël. Anne-Laure aimerait faire une annonce concernant le groupe de jeunes.
Alors, c'est juste pour vous dire que on a bien bossé hier, mais si vous ne nous aviez pas aidés, on n'aurait pas fait grand-chose. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un petit quelque chose, un petit gâteau, des petites verrines, enfin... Tout ce qu'il y a eu, c'était super bon et on a eu vraiment beaucoup, donc un grand, grand, grand merci. Et j'en profite pour vous dire que dans 2 semaines, du coup, le 20 décembre, on refait la même chose. Alors n'hésitez pas. Donc si on peut refaire exactement pareil, ce sera parfait. Et puis, un détail pratique. Il y en a qui ont amené des gâteaux sur des plats. Donc on a gardé tous ces plats. Ils sont en bas, je crois, dans la cuisine. Donc allez voir en bas pour les récupérer. Et il y a aussi quelques restes, parce que vous avez tellement bien travaillé qu'on en a eu beaucoup, un petit peu trop. Donc vous pouvez aller vous servir de quelques gâteaux qui restent en bas. Sinon, on va devoir les mettre à la poubelle si on n'arrive pas à tous les manger. Alors voilà, allez vous servir.
Dans la récupération, il y a aussi 2 vestes au fond de,
au fond de la salle.
Ils sont restés dans la salle hier soir.
Voilà, donc 2 vestes à récupérer. C'est vrai que la salle était bien chaude en fin de journée, donc on avait peut-être moins besoin des vestes, mais récupérons-les quand même. Des nouvelles des uns et des autres. Charlie a toujours son lumbago. Pensons à lui, prions pour lui. Pourquoi pas un petit coucou, un petit téléphone. Il a passé une bonne partie de la semaine au lit. Dès qu'il se lève, il a de nouveau les douleurs qui reviennent. Demain matin, il va vraisemblablement recontacter son médecin pour explorer plus, pour savoir un petit peu plus d'où viennent ces douleurs. Enfin, pensons vraiment à lui. On l'a visité hier, il est vraiment triste de ne pas pouvoir participer. Ouais, vraiment, continuons de prier pour lui. Quelques nouvelles de Guylaine. Donc, Guylaine a été opérée en début de semaine. Elle commence à aller mieux. Pensons vraiment à elle. C'est vrai que Guylaine souffre dans sa santé, elle est souvent pas bien, elle subit souvent des opérations, mais continuons de prier pour elle. Ce matin, Jacques, son mari et sa fille Brigitte ont été la visiter. N'hésitez pas, donc peut-être un petit coup de téléphone, peut-être une visite quand elle rentrera. On vous tiendra au courant par le biais du site. Cette semaine, c'est la semaine de prière pour le pays, l'Afghanistan. Prions pour l'Afghanistan, pour nos frères et sœurs qui sont dans ce pays. Comme déjà dit, vous pouvez trouver des infos en cliquant sur le lien qui est tout en haut à droite de la première page du site internet de l'Église. Ne les oublions pas. Louise a sorti un nouveau CD, Confiance. Ce CD est en promo, mais attention, ça ne va pas durer. Hein. Il est en promo jusqu'au 24, 12 euros au lieu de 15. Donc, ne vous privez pas, il est à disposition à la librairie. Je vous rappelle aussi les calendriers qui sont disponibles. Je l'ai malheureusement oublié à la maison, mais je vous rappelle aussi ce calendrier d'évangélisation, format environ A5, avec des feuillets qui se tournent un par mois, est spécialement conçu pour l'évangélisation et que l'on peut se procurer pour un prix très modique, 1,50€ frais de port compris. Donc il y a déjà 10 calendriers qui vont être commandés. Je vais les commander cette semaine. Si vous en voulez, faites-le moi savoir. On va lancer la commande cette semaine. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever. Et je vous lis 2 versets... qui sont à la fin du psaume 57, et on peut s'associer à ces versets. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.